Chapitre 7. L'homme heureux fait connaissance avec le malheur. Corneille, après avoir fait les affaires de sa famille, arriva chez son filleul, Cornelius Van Baarle, au mois de janvier 1672. La nuit tombait. Corneille, quoique assez peu horticulteur, quoique assez peu artiste, Corneille visita toute la maison, depuis l'atelier jusqu'aux serres, depuis les tableaux jusqu'aux tulipes. Il remerciait son neveu de l'avoir mis sur le pont du vaisseau amiral des Sept Provinces pendant la bataille de Southwood Bay et d'avoir donné son nom à une magnifique tulipe, et tout cela avec la complaisance et l'affabilité d'un père pour son fils, et tandis qu'il inspectait ainsi les trésors de Van Baarle, la foule stationnait avec curiosité, avec respect même, devant la porte de l'homme heureux. Tout ce bruit éveilla l'attention de Boxtel qui goûtait près de son feu. Il s'informa de ce que c'était, l'apprit et grimpa à son laboratoire. Et là, malgré le froid, il s'installa le télescope à l'œil. Ce télescope ne lui était plus d'une grande utilité depuis l'automne de 1671. Les tulipes frileuses comme des vraies filles de l'Orient ne se cultivent point dans la terre en hiver. Elles ont besoin de l'intérieur de la maison, du lit douillet des tiroirs et les douces caresses du poêle. Aussi, tout l'hiver, Cornelius le passait-il dans son laboratoire, au milieu de ses livres et de ses tableaux. Rarement allait-il dans la chambre aux oignons, si ce n'était pour y faire entrer quelques rayons de soleil qu'il surprenait au ciel et qu'il forçait, en ouvrant une trappe vitrée, de tomber bon gré mal gré chez lui. Le soir dont nous parlons, après que Corneille et Cornelius eurent visité ensemble les appartements, suivis de quelques domestiques, « Mon fils, dit Corneille bas à Van Baarle, éloignez vos gens et tâchez que nous demeurions quelques moments seuls. » Cornelius s'inclina en signe d'obéissance. Puis tout haut, « Monsieur, dit Cornelius, vous plaît-il de visiter maintenant mon séchoir de tulipes ?» Le séchoir, le pandémonium de la tuliperie, ce tabernacle, ce sanctum sanctorum, était, comme Delphes jadis, interdit aux profanes. Jamais valet n'y avait mis un pied audacieux, comme eût dit le grand Racine qui florissait à cette époque. Cornelius n'y laissait pénétrer que le balai inoffensif d'une vieille servante frisonne, sa nourrice, laquelle, depuis que Cornelius était voué au culte des tulipes, n'osait plus mettre d'oignons dans les ragoûts, de peur d'éplucher et d'assaisonner le cœur de son nourrisson. Aussi, à ce seul mot de « séchoir », les valets qui portaient les flambeaux s'écartèrent-ils respectueusement. Cornelius prit les bougies de la main du premier et précéda son parrain dans la chambre. Ajoutons à ce que nous venons de dire que le séchoir était ce même cabinet vitré sur lequel Boxtel braquait incessamment son télescope. L'envieux était plus que jamais à son poste. Il vit d'abord s'éclairer les murs et les vitrages, puis deux ombres apparurent. L'une d'elles, grande, majestueuse, sévère, s'assit près de la table où Cornelius avait déposé le flambeau. Dans cette ombre, Boxtel reconnut le pâle visage de Corneille de Huit, dont les longs cheveux noirs séparés au front tombaient sur les épaules. Le regard de Pulten, après avoir dit à Cornelius quelques paroles dont l'envieux ne put comprendre le sens au mouvement de ses lèvres, tira de sa poitrine et lui tendit un petit paquet blanc soigneusement cacheté, le paquet que Boxtel, à la façon dont Cornelius le prit et le déposa dans une armoire, supposa être des papiers de la plus grande importance. Il avait d'abord pensé que ce paquet précieux renfermait quelques cailleux nouvellement venus de Bengale ou de Ceylan, mais il avait réfléchi bien vite que Corneille cultivait peu les tulipes et ne s'occupait guère que de l'homme, mauvaise plante, bien moins agréable à voir et surtout bien plus difficile à faire fleurir. Il en revint donc à cette idée que ce paquet contenait purement et simplement des papiers et que ces papiers renfermaient de la politique. Mais pourquoi des papiers renfermant de la politique à Cornelius, qui non seulement était, mais se vantait d'être entièrement étranger à cette science, bien autrement obscure à son avis que la chimie et même que l'alchimie? C'était un dépôt, sans doute, que Corneille, déjà menacé par l'impopularité dont commençaient à l'honorer ses compatriotes, remettait à son filleul Van Baarle, et la chose était d'autant plus adroite de la part d'Huriard que, certes, ce n'était pas chez Cornelius, étranger à toute intrigue, que l'on irait poursuivre ce dépôt. D'ailleurs, si le paquet eût contenu des cailloux, Boxtel connaissait son voisin. Cornelius n'y eût pas tenu et il eût à l'instant même apprécié, en l'étudiant en amateur, la valeur des présents qu'il recevait. Tout au contraire, Cornelius avait respectueusement reçu le dépôt des mains du ruard et l'avait respectueusement toujours mis dans un tiroir, le poussant au fond, d'abord sans doute pour qu'il ne fût point vu, ensuite pour qu'il ne prît pas une trop grande partie de la place réservée à ses oignons. Le paquet dans le tiroir, Cornelius de Witt se leva, serra les mains de son filleul et s'achemina vers la porte. Cornelius saisit vivement le flambeau et s'élança pour passer le premier et l'éclairer convenablement. Alors la lumière s'éteignit insensiblement dans le cabinet vitré pour aller reparaître dans l'escalier, puis sous le vestibule, et enfin dans la rue, encore encombrée des gens qui voulaient voir le ruard remonter en carrosse. L'envieux ne s'était point trompé dans ses suppositions. Le dépôt remis par le ruard à son filleul et soigneusement serré par celui-ci était la correspondance de Jean avec M. de Louvois. Seulement ce dépôt était confié, comme l'avait dit Corneille à son frère, sans que Corneille, le moins du monde, eût laissé soupçonner l'importance politique à son filleul. La seule recommandation qui lui eût été faite était de ne rendre compte de ce dépôt qu'à lui, sur un mot de lui, quelle que fût la personne qui vint le réclamer. Et Cornelius, comme nous l'avons vu, avait enfermé le dépôt dans l'armoire aux cailloux rares. Puis le ruard partit, le bruit et les feux éteints, notre homme n'avait plus songé à ce paquet auquel, au contraire, songeait fort Boxtel, qui, pareil au pilote habile, voyait dans ce paquet le nuage lointain et imperceptible qui grandira en marchant et qui renferme l'orage. Et maintenant, voilà donc tous les jalons de notre histoire plantée dans cette terre grasse qui s'étend de Dordrecht à La Haye. Les suivra qui voudra dans l'avenir des chapitres suivants. Quant à nous, nous avons tenu notre parole en prouvant que jamais ni Corneille ni Jean de Witt n'avaient eu de si féroces ennemis dans toute la Hollande que celui que possédait Van Baarle dans son voisin Mynheer Isaac Boxtel. Toutefois, florissant dans son ignorance, le tulipier avait fait son chemin vers le but proposé par la société de Harlem. Il avait passé de la tulipe bistre à la tulipe café brûlé. Et revenant à lui, ce même jour où se passait à La Haye le grand événement que nous avons raconté, nous allons le retrouver vers 1 heure de l'après-midi, enlevant de sa plate-bande les oignons infectus encore d'une semence de tulipe café brûlé, tulipe dont la floraison avortée jusque-là était fixée au printemps de l'année 1673 et qui ne pouvait manquer de donner la grande tulipe noire demandée par la société de Harlem. Le 20 août 1672, à 1 heure de l'après-midi, Cornelius était donc dans son séchoir, les pieds sur la barre de sa table, les coudes sur le tapis, considérant avec délices 3 cailloux qu'il venait de détacher de son oignon, cailloux pur, parfait, intact, principe inappréciable d'un des plus merveilleux produits de la science et de la nature, unis dans cette combinaison dont la réussite devait illustrer à jamais le nom de Cornelius Van Baarle. « Je trouverai la grande tulipe noire, » disait à part lui Cornelius tout en détachant ses cailloux. « Je toucherai les 100 000 florins du pis proposé, je les distribuerai aux pauvres de Dordrecht. De cette façon, la haine que tout riche inspire dans la guerre civile s'apaisera et je pourrai, sans rien craindre des républicains ou des orangistes, continuer à tenir mes plates-bandes en somptueux état. » Je ne craindrai pas non plus qu'un jour d'émeute, les boutiquiers de Dordrecht et les mariniers du port viennent arracher mes oignons pour nourrir leur famille, comme ils me menacent parfois tout bas quand il leur revient que j'ai acheté un oignon 200 ou 300 florins. C'est résolu, je donnerai donc aux pauvres les 100 000 florins du prix de Harlem. Quoique, et à ce quoique, Cornelius Van Baarle fit une pause et soupira. « Quoique, continua-t-il, c'eût été une bien douce dépense que celle de ces 100 000 florins, appliquée à l'agrandissement de mon parterre ou même à un voyage dans l'Orient, patrie des belles fleurs. Mais hélas, il ne faut plus penser à tout cela. Mousquets, drapeaux, tambours et proclamations, voilà ce qui domine la situation en ce moment. » Van Baarle leva les yeux au ciel et poussa un soupir. Puis, ramenant son regard vers ses oignons, qui dans son esprit passaient bien avant ses mousquets, ses tambours, ses drapeaux et ses proclamations, toutes choses propres seulement à troubler l'esprit d'un honnête homme, « Voilà cependant de bien jolis cailloux, dit-il, comme ils sont lisses, comme ils sont bien faits, comme ils ont cet air mélancolique qui promet le noir d'ébène à ma tulipe. Sur leur peau, les veines de circulation ne paraissent même pas à l'œil nu. Oh, certes, pas une tache ne gâtera la robe de deuil de la fleur qui me devra le jour. Comment nommera-t-on cette suie de mes veilles, de mon travail, de ma pensée? Tulipa nigra Barlenensis. Oui, Barlenensis, ce joli nom. Toute l'Europe tulipière, c'est-à-dire toute l'Europe intelligente, tressaillera quand ce bruit courra sur le vent aux quatre points cardinaux du globe. La grande tulipe noire est trouvée. Son nom? Demanderont les amateurs. Tulipa nigra Barlenensis. Mais pourquoi Barlenensis? À cause de son inventeur, Van Baarle, répondra-t-on. Et ce Van Baarle, qui est-ce? C'est celui qui avait déjà trouvé 5 espèces nouvelles, la jeanne, la jonc de huître, la corneille, etc. Eh bien voilà mon ambition à moi, elle ne coûtera de larmes à personne. Et l'on parlera encore de la Tulipa nigra Barlenensis, quand peut-être mon parrain, ce sublime politique, ne sera plus connu que par la tulipe à laquelle j'ai attaché son nom. Les charmants cailloux. Quand ma tulipe aura fleuri, continua Cornelius, je veux, si la tranquillité est revenue en Hollande, donner aux pauvres 50 000 florins. Au bout du compte, c'est déjà beaucoup pour un homme qui ne doit absolument rien. Puis, avec les 50 000 autres florins, je ferai des expériences. Avec ces 50 000 florins, je veux arriver à parfumer la tulipe. Oh, si j'arrivais à donner à la tulipe l'odeur de la rose ou de l'œillet, ou même une odeur complètement nouvelle, ce qui vaudrait encore mieux. Si je rendais à cette reine des fleurs ce parfum naturel générique qu'elle a perdu en passant de son trône d'Orient sur son trône européen, celle qu'elle doit avoir dans la presqu'île de l'Inde, à Goa, à Bombay, à Madras, et surtout dans cette île qui autrefois, ce qu'on m'assure, fut le paradis terrestre et qu'on appelle Ceylan. Ah, quelle gloire! J'aimerais mieux, je le dis, j'aimerais mieux alors être Cornelius Van Baarle que d'être Alexandre, César ou Maximilien. Les admirables cailloux. Et Cornelius se délectait dans sa contemplation, et Cornelius s'absorbait dans les plus doux rêves. Soudain, la sonnette de son cabinet fut plus vivement ébranlée que d'habitude. Cornelius tressaillit, étendit la main sur ses cailloux et se retourna. « Qui va là ? » demanda-t-il. « Monsieur, dit le serviteur, c'est un messager de La Haye. »« Un messager de La Haye ? Que veut-il ? » ?»« Monsieur, c'est Crac. »« Crac, le valet de confiance de Monsieur Jean de Witt ? Bon, qu'il attende. » « Je ne puis attendre !» dit une voix dans le corridor, et en même temps, forçant la consigne, Crac se précipita dans le séchoir. Cette apparition presque violente était une telle infraction aux habitudes établies dans la maison de Cornelius Van Baarle que celui-ci, en apercevant Crac qui se précipitait dans le séchoir, fit de la main qui couvrait les cailloux un mouvement presque convulsif, lequel envoya deux des précieux oignons rouler, l'un sous une table voisine de la grande table, l'autre dans la cheminée. « Au diable !» dit Cornelius, se précipitant à la poursuite de ses cailloux. « Qu'y a-t-il donc, Crac ?»« Il y a, monsieur, » dit Crac, déposant le papier sur la grande table où était resté gisant le troisième oignon, « il y a que vous êtes invité à lire ce papier sans perdre un instant. » Et Crac, qui avait cru remarquer dans les rues de Dordrecht les symptômes d'un tumulte pareil à celui qu'il venait de laisser à La Haye, s'enfuit sans tourner la tête. « c'est bon, mon cher Crac, » dit Cornelius, étendant le bras sous la table pour y poursuivre l'oignon précieux. « On le lira, ton papier !» Puis, ramassant le cailloux qu'il mit dans le creux de sa main pour l'examiner, « Bon, dit-il, en voilà déjà un intact. Diable de Crac, entrez ainsi dans mon séchoir. Bon, voyons un autre maintenant. » Et sans lâcher le nom furtif, Van Baarle s'avança vers la cheminée et, à genoux, du bout du doigt, se mit à palper les cendres qui, heureusement, étaient froides. Au bout d'un instant, il sentit le second cailloux. « Bon, dit-il, le voici. » Et le regardant avec une attention presque paternelle, « Intact comme le premier, dit-il. » Au même instant, et comme Cornelius, encore à genoux, examinait le second cailloux, la porte du séchoir fut secouée si rudement et s'ouvrit de telle façon à la suite de cette secousse que Cornelius sentit monter à ses joues, à ses oreilles, la flamme de cette mauvaise conseillère que l'on nomme la colère. « Qu'est-ce encore ? » demanda-t-il. « Ah, ça, devient-on fou, séant ?»« Monsieur, monsieur !» s'écria un domestique, se précipitant dans le séchoir avec le visage plus pâle et la mine plus effarée que ne les avait Crac. « Eh bien, » demanda Cornelius, présageant un malheur à cette double infraction de toutes ses règles. « Ah, monsieur, fuyez, fuyez vite !» cria le domestique. « Fuir, et pourquoi ?»« Monsieur, la maison est pleine des gardes des États. »« Et que demande-t-il »« Il vous cherche. »« Mais pourquoi faire ?»« Pour vous arrêter. »« Pour m'arrêter, moi ?»« Oui, monsieur, ils sont précédés d'un magistrat. » « Que veut dire ceci ?» demanda Van Baarle en serrant ses deux cailloux dans sa main et en plongeant son regard effaré dans l'escalier. « il monte !» cria le serviteur. « Oh, mon cher enfant, mon digne maître !» cria la nourrice en faisant à son tour son entrée dans le séchoir. « Prenez vos tors, vos bijoux et fouillez, fouillez !»« Mais par où veux-tu que je fouille, nourrice ?» demanda Van Baarle. « Sautez par la fenêtre !»« 25 pieds !»« Vous tomberez sur 6 pieds de terre grasse !»« Oui, mais je tomberai sur mes tulipes !»« N'importe, sautez !» Cornelius prit le troisième caillou, s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit, mais à l'aspect du dégât qu'il allait creuser dans ses plates-bandes, bien plus encore qu'à la vue de la distance qu'il allait franchir, « jamais, dit-il, et il fit un pas en arrière. En ce moment, on voyait poindre à travers les barreaux de la rampe les hallebardes des soldats. La nourrice leva les bras vers le ciel. Quant à Cornelius Van Baarle, il faut le dire à la louange, non pas de l'homme, mais du tulipier, sa seule préoccupation fut pour ses inestimables cailloux. Il chercha des yeux un papier où les envelopper, aperçut la feuille de la Bible déposée par Crac sur le séchoir, la prit, sans se rappeler, tant son trouble était grand, d'où venait cette feuille, y enveloppa les trois cailloux, les cacha dans sa poitrine et attendit. Les soldats, précédés du magistrat, entrèrent en même temps. « Êtes-vous le docteur Cornelius Van Baarle ?» demanda le magistrat, quoiqu'il connût parfaitement le jeune homme. Mais en cela, il se conformait aux règles de la justice, ce qui donnait, comme on le voit, une grande gravité à l'interrogation. « Je le suis, maître Van Spennen, » répondit Cornelius, en saluant gracieusement son juge, « vous savez bien. Alors livrez-nous les papiers séditieux que vous cachez chez vous. » « Le papier séditieux ?» répéta Cornelius, tout abasourdi de l'apostrophe. « Oui, ne faites pas l'étonné !» « Je vous jure, maître Van Spennen, » répondit Cornelius, « que j'ignore complètement ce que vous voulez dire. »« Alors, je vais vous mettre sur la voie, docteur, » dit le juge, « livrez-nous les papiers que le traître Corneille de Huit a déposés chez vous au mois de janvier dernier. » Un éclair passa dans l'esprit de Cornelius. « Oh, » dit Van Spennen, « voilà que vous commencez à vous rappeler, n'est-ce pas ?»« Sans doute, mais vous parliez de papiers séditieux, je n'ai aucun papier de ce genre. »« Ah, vous niez ?»« Certainement. » Le magistrat se retourna pour embrasser d'un coup d'œil tout le cabinet. « Quelle est la pièce de votre maison qu'on nomme le séchoir ?» demanda-t-il. « Ah, c'est justement celle où nous sommes, maître Van Spennen. » Le magistrat jeta un coup d'œil sur une petite note placée au premier rang de ses papiers. « C'est bien, dit-il, comme un homme qui est fixé. » Puis, se retournant vers Cornelius, « Voulez-vous me remettre ces papiers » dit-il. Ah, « Je ne puis, maître Van Spennen, ces papiers ne sont point à moi. Ils m'ont été remis à titre de dépôt, et un dépôt est sacré. » « Docteur Cornelius, dit le juge, au nom des États, je vous ordonne d'ouvrir ce tiroir et de me remettre les papiers qui y sont enfermés. » Et du doigt, le magistrat indiquait juste le troisième tiroir d'un bahut placé près de la cheminée. C'était dans ce troisième tiroir, en effet, qu'étaient les papiers remis par le ruyard de Pulton à son filleul, preuve que la police avait été parfaitement renseignée. « Ah, vous ne voulez pas ?» dit Van Spennen, voyant que Cornelius restait immobile de stupéfaction. « Je vais donc l'ouvrir moi-même. » Et ouvrant le tiroir dans toute sa longueur, le magistrat mit d'abord à découvert une vingtaine d'oignons, rangés et étiquetés avec soin, puis le paquet de papier demeuré dans le même état exactement où il avait été remis à son filleul par le malheureux Corneille de Huit. Le magistrat rompit les cires, déchira l'enveloppe, jeta un regard avide sur les feuilles qui s'offrirent à ses regards et s'écria d'une voix terrible « Ah, la justice n'avait donc pas reçu un faux avis !»« Comment ?» dit Cornelius, « qu'est-ce donc ?»« Ah, ne faites pas davantage ignorant, monsieur Van Baarle, » répondit le magistrat, « et suivez-moi. »« Comment je vous suive ?» s'écria le docteur. « Oui, car au nom des États, je vous arrête. » Il n'arrêtait pas encore au nom de Guillaume d'Orange. Il n'y avait pas assez longtemps qu'il était Stadtholder pour cela. « M'arrêter ? » s'écria Cornelius. « Mais qu'ai-je donc fait ?»« Cela ne me regarde point, docteur. Vous vous expliquerez avec vos juges. »« Où cela ? À la haie. » Cornelius, stupéfait, embrassa sa nourrice, qui perdait connaissance, donna la main à ses serviteurs, qui fondaient en larmes, et suivit le magistrat, qui l'enferma dans une chaise comme un prisonnier d'État, et le fit conduire au grand galop à la haie.